Bonjour à toutes et à tous, Christophe Gravreau au micro d'IDFM Radio. Bienvenue dans notre balade musicale, je suis ravi de vous retrouver. On est ensemble jusqu'à midi et nous allons passer une heure en musique. Au programme, beaucoup de nouveautés, de Mozart à Bartok, en passant par Chopin, avec de belles découvertes, mais je ne vous en dis pas plus. Et tout de suite, nous sommes en duplex avec la pianiste Flore Merlin, qui vient de publier un très beau disque, avec le clarinettiste Lionel André, le fruit d'une, déjà, longue collaboration musicale. Bonjour Flore Merlin.
Bonjour.
Rappelons votre parcours musical. Vous avez reçu une formation qui vous a mené au CNSM de Paris, puis à Bruxelles et en Finlande à l'Académie Sibelius, avec des enseignants qui vous ont marqué, comme Hortense Cartier-Bresson, Alain Planès et peut-être surtout la pianiste finlandaise Tuija Hakila. Vous êtes curieuse et ouverte à la diversité des répertoires, d'instruments et de publics. Vous aimez faire connaître des œuvres et esthétiques sortant de l'ordinaire en vous tournant vers des compositeurs parfois méconnus et aussi des compositrices. Vous êtes passionnée de musique de chambre, en trio, en duo avec le violoncelliste Raphaël Jouan et avec le clarinettiste suisse Lionel André, votre partenaire dans ce disque Color Gradient qui sort chez Mountain Records. Une première question, Flore Merlin. Avec Lionel André, vous vous êtes connu, je crois, à l'Académie Sibelius, n'est-ce pas?
Absolument. Nous avons fait une partie de nos études respectives à l'Académie Sibelius d'Helsinki. Moi, c'était d'abord lors de mes études au CNSM en piano. Je suis partie en Erasmus pendant ma troisième année d'études. Et Lionel n'était pas encore arrivé à ce moment-là, mais ensuite, moi, je suis retournée en master un an et demi plus tard, disons. Et lui était là, à ce moment-là, en master avec Harri Mäki. Et on a eu un cours de musique de chambre ensemble avec un professeur qui nous a énormément marqué, énormément inspiré, qui avait vraiment une vision très, très intéressante sur la façon de lire une partition, la façon de se l'approprier, et en même temps de rester humble face aux idées des compositeurs, savoir trouver sa place d'interprète. C'était quelqu'un de, enfin, c'est quelqu'un de vraiment formidable qui s'appelle Timo Koskinen, à qui on pense régulièrement quand on travaille ensemble.
Donc, en somme, en Finlande.
C'est une expérience formidable.
Pardon, en Finlande, il n'y a pas que des chefs d'orchestre, parce qu'il y a tellement de chefs d'orchestre extraordinaires.
Alors, c'est vrai que la Finlande est connue pour former de nombreux très, très grands chefs d'orchestre. C'est une école formidable à tout point de vue. L'Académie Sibelius, c'est vraiment, moi, ça a été vraiment un choc de pouvoir découvrir une autre mentalité, une autre façon de concevoir la pédagogie, une autre façon de concevoir le soutien que peut apporter une institution aux étudiants.
Ça, c'est très important.
Ah oui, c'était vraiment formidable. On avait, au niveau des conditions de travail, au niveau de la façon de soutenir les étudiants dans leur évolution, dans leur démarche. C'était vraiment une découverte. Alors, évidemment, il y a énormément de gens passionnants et merveilleux et très pédagogues et très soutenants en France. C'est pas la question.
Bien sûr.
Mais c'est vrai que ça a été quelque chose de très libérateur pour moi de partir en Finlande.
Alors revenons à votre disque. Comment avez-vous conçu ce programme qui est très original, puisqu'à côté de pièces classiques pour vos instruments comme la Rhapsodie de Debussy ou la Sonate de Poulenc, figurent des pages de Daniel Schneider ou d'Alec Templeton que peu de nos auditeurs doivent connaître?
Oui, alors effectivement, c'était un peu l'idée de ce disque, c'était de mêler des pièces connues et des pièces moins connues pour ouvrir un peu les perspectives. On avait envie d'intégrer de la musique américaine qu'on avait beaucoup joué à un moment donné avec Lionel. On avait fait un programme un peu thématique avec seulement de la musique américaine. Et puis, la musique française pour clarinette et piano, c'est vraiment des œuvres absolument merveilleuses. Donc, on avait envie de créer le lien, en fait, entre cette partie française et cette partie américaine. Et effectivement, Daniel Schneider, c'est un compositeur suisse avec qui Lionel a travaillé plusieurs fois, notamment avec son trio Eclipse. Ils ont enregistré un trio de Daniel Schneider. Et Daniel Schneider, donc, c'est un compositeur suisse-allemand qui est parti vivre aux États-Unis à New York il y a des années. Et qui est, c'est aussi un compositeur, mais c'est aussi un interprète. C'est un saxophoniste de jazz, qui joue donc du saxophone soprano.
Ah, comme John Coltrane, alors.
Voilà, il a écrit donc cette sonate qui est jouée aussi à la base et pour soprano pour saxophone soprano, et qui est joué donc à la clarinette, et qui peut être joué au basson aussi. Je l'ai déjà lu avec une bassoniste, notamment. Et donc ça, effectivement, c'était on avait envie de faire découvrir, non pas que cette sonate n'ait jamais été enregistrée auparavant, elle l'a déjà été enregistrée, mais pas tellement finalement, il y a quelques enregistrements, dont un de Daniel Schneider lui-même d'ailleurs. Donc on avait envie de faire découvrir ça, et puis sinon, effectivement, Templeton, c'est un compositeur très 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 peu connu, il me semble en tout cas, même des clarinettistes en fait. C'est vraiment de la musique beaucoup plus facile d'écoute, je dirais, et qu'on avait vraiment envie d'intégrer au disque comme une facette un peu différente de ce qu'on peut faire dans ce langage qui est évidemment extrêmement vaste et qu'il est certainement très limitant d'appeler le jazz. C'est vraiment disons que c'est très réducteur, mais enfin, de mettre Schneider et Templeton dans la même case, c'est un petit peu, je sais pas comment exprimer ça. C'est mettre des choses extrêmement différentes sous la même étiquette. Donc c'est évidemment pas comme ça qu'on voit les choses. Mais en tout cas, il y a cette espèce de parcours vers le langage, disons, appelons jazz par commodité.
Alors on va commencer par écouter le dernier mouvement, le final de la sonate de Daniel Schneider. Puis on écoutera un peu plus tard. Templeton. Donc, finale de la sonate de Daniel Schneider, Lionel André clarinette et vous, Flore Merlin au piano.
Thank you.
C'était le final de la sonate du compositeur suisse Daniel Schneider par notre invité sur IDFM Radio, la pianiste Flore Merlin et le clarinettiste Lionel André, un extrait de leur disque qui propose de nombreuses découvertes remarquablement mises en valeur par la qualité de leur interprétation. Flore Merlin, autre compositeur beaucoup plus connu, celui-là Francis Poulenc, dont on commémore cette année le 60e anniversaire de la disparition. Alors c'était un homme qui se définissait comme moine et mauvais garçon, et sa musique lui ressemble, n'est-ce pas?
Oui, c'est vrai qu'on a, il y a des aspects extrêmement différents chez l'homme et chez la musique de Francis Poulenc. C'est un compositeur qui, moi, me touche énormément justement par cette sincérité dans tous ses aspects. Là, le deuxième mouvement de la sonate, la romance, c'est plutôt l'aspect moine, je pense, qui transparaît. C'est vraiment un compositeur qui, je trouve, écrit d'une façon. Alors, il a un langage vraiment très reconnaissable. Je trouve que voilà, Poulenc, en général, il suffit d'entendre quelques secondes pour le reconnaître. Et dans ce deuxième mouvement, il y a vraiment une tendresse et une atmosphère, une poésie, un lyrisme que je trouve vraiment merveilleux. Et voilà, ces harmonies très très reconnaissables, tellement poulenquiennes. Je ne sais pas si on peut faire un adjectif de la personne de son nom.
En tout cas, on l'accepte ici. Et savez-vous s'il aimait le jazz, qu'il fréquentait certainement, puisqu'il allait au Bœuf sur le Toit avec Jean Cocteau pendant les années folles, et où il y avait la vedette, il y avait le duo Viennet et Doucet?
Alors là, vous m'emmenez plus loin que ce que je sais, mais je ne peux pas imaginer, en entendant sa musique, en entendant la musique qu'il a lui-même écrite, qu'il ait pu ne pas aimer cette évolution-là stylistique. Et je pense que c'était quelqu'un d'extrêmement ouvert et qui s'imprégnait de tout ce qui se passait autour de lui. Donc ça ne m'étonne pas du tout, ce que vous me dites.
Eh bien, on va écouter un second extrait de votre disque avec ce deuxième mouvement que vous évoquiez tout à l'heure, Flore Merlin, de la sonate pour clarinette et piano de Poulenc, une romance. Thank you. Francis Poulenc, romance, deuxième mouvement de la sonate pour clarinette et piano, par Lionel André et notre invitée, la pianiste Flore Merlin. Alors Flore, il y aura demain, samedi 27 mai, le concert de sortie de votre disque Color Gradient. Ce sera où et comment peut-on éventuellement vous applaudir?
Alors, il y a effectivement demain, le samedi 27, alors ce sera au Nocturne de l'Aude. C'est un endroit très très charmant dans le 14e arrondissement à Paris, du métro Alésia. C'est une résidence privée, mais auquel vous pouvez vous joindre. Vous pouvez nous rejoindre là-bas. Pour réserver, il suffit d'envoyer un mail à l'adresse suivante, lesnocturnes au pluriel, de l'Aude, L-A-U-D-E, @gmail.com. Et sinon, nous avons également un concert de sortie ce soir, le vendredi 26 mai, au Regard du Cygne. Donc c'est au 210 rue de Belleville à Paris. Et vous pouvez, pour réserver, envoyer un mail à ma propre adresse, merlin.flore@gmail.com.
Et avez-vous d'autres dates de concert, Flore, seule ou avec Lionel André?
Oui, alors nous avons d'autres concerts de sortie de disques le 11 juillet à Berlin, le 15 novembre à Rion, près de Clermont-Ferrand, et le 24 novembre à Hambourg, en Allemagne aussi. Et sinon, individuellement, oui, on a beaucoup de d'autres projets et de concerts. Lionel, il fait beaucoup de musique de chambre, notamment donc avec son trio Eclipse et avec son quintet Reeds in Motion. Donc là, le plus simple, c'est d'aller voir sur son site lionelandré.ch, puisqu'il est suisse. Et moi, j'ai fait aussi pas mal de choses à venir, notamment des créations d'opéra, des concerts de musique de chambre dans des festivals cet été. Et le plus simple, c'est aussi d'aller voir sur mon site floremerlin.net.
Parfait. Eh bien, c'est dit, Flore. Continuons à découvrir en musique le programme de votre disque avec cette sonate de poche, je crois, d'Alec Templeton. Quelques mots sur ce compositeur et son style assez différent, vous nous l'avez dit, de Daniel Schneider.
Oui, tout à fait. Alors, ça n'a vraiment rien à voir. Bon, c'est pas du tout la même période aussi. Hein. C'est un compositeur vraiment du début du XXe siècle, qui était gallois. C'était un compositeur, c'est peut-être anecdotique, mais peut-être pas tant que ça, qui était aveugle de naissance et qui a vraiment un style, disons, de divertissement. Ce qui veut absolument pas dire que c'est une musique qui manquerait d'intérêt ou de profondeur. C'est vraiment pas du tout ce que je sous-entends. Mais c'est de la musique plus de, disons, de musical. C'était quelqu'un qui faisait beaucoup de ce genre de performances, d'émissions, qui jouait de la musique, voilà, qu'on peut qualifier peut-être d'un peu plus légère, c'est un petit peu, souvent ce que je dis, c'est un peu une boutade, mais peut-être pas tant que ça. C'est un peu le style de musique qu'on entend dans les films de Woody Allen, si vous voulez.
Ah oui, d'accord.
C'est de la musique qui est assez facile d'écoute, qui est très plaisante, qui est très rythmée, qui en même temps et dont les harmonies sont agréables à l'oreille, vous voyez.
Eh bien, on va s'en rendre compte tout de suite avec le second mouvement de cette sonate, Model Blues. Thank you. C'était le second mouvement de la sonate d'Alec Templeton par notre invité en balade musicale sur IDFM Radio, la pianiste Flore Merlin, avec le clarinettiste Lionel André, extrait de leur très beau disque sorti sous le label Mountain Records. Hors micro, vous m'aviez dit, je crois, Flore, qu'Alec Templeton avait beaucoup vécu aux États-Unis.
Oui, tout à fait. Il est parti à peu près à l'âge de un petit peu moins de 30 ans, il me semble, vivre aux États-Unis. C'est aussi un peu pour ça qu'on avait choisi de l'intégrer au disque, puisqu'il y avait vraiment cette polarité, disons, France et États-Unis.
Alors, il y a une question qui me brûle, si je peux dire, la langue. Pourquoi avoir donné à votre disque ce titre un peu mystérieux, Color Gradient?
Alors, Color Gradient, c'est donc, ça veut dire dégradé de couleur. C'était l'idée que notre disque soit vraiment un fil rouge, enfin un fil coloré en tout cas, soit doté d'un fil qui nous fasse passer, disons de façon assez progressive, un peu comme dans un dégradé de couleur, d'une part la France vers les États-Unis, d'autre part de la fin du 19e siècle jusqu'à nos jours, et enfin de la musique qu'on pourrait appeler occidentale écrite, disons, à occidentale moins écrite, c'est-à-dire le style savant, classique, donc de Victor, de Vichy-Poulenc, et ensuite en allant progressivement vers quelque chose qui reste écrit, hein, puisque le jazz de Schneider, par exemple, c'est pas du tout du jazz avec des grilles et avec D'accord. une part d'improvisation laissée à l'interprète. Il s'agit vraiment d'une sonate donc de jazz, si on peut dire, mais écrite pour des musiciens classiques malgré tout. Donc toute cette musique-là est tout à fait écrite, mais c'est sûr qu'il y a une évolution vers un style différent, et donc plus influencé non seulement par le jazz, mais aussi par des musiques traditionnelles. Par exemple, dans la sonate de Schneider, où il y a des rythmes un peu balkanique, notamment dans le troisième mouvement. Enfin, il y a des choses qui sortent un petit peu d'un langage qui est assez, comment dire, Debussy par exemple, c'est un langage harmoniquement extrêmement riche et dont on perçoit, en fait, vous savez, souvent dans le jazz, on dit qu'il y a beaucoup de neuvièmes, de onzièmes, de treizièmes, des accords très riches. En fait, dans Debussy, on entend déjà ces choses-là. Donc c'est aussi comme ça qu'on a voulu faire le lien. Et puis évidemment, dans Bernstein, par exemple, on connaît évidemment son œuvre maîtresse, West Side Story, dans laquelle on entend vraiment des choses très rythmiques, des choses très très dansantes. Et cet aspect-là de Bernstein, on l'entend déjà dans cette sonate, en fait, même si c'est une œuvre de jeunesse.
Alors, vous avez fait appel à un jeune compositeur, Fabien Touchard, né en 1985, pour une courte pièce qui clôt votre disque. Comment l'avez-vous connu?
Alors, Fabien, c'est un ami de longue date. On a fait nos études d'accompagnement ensemble, il y a vraiment très longtemps. Et puis ensuite, on était aussi au CNSM de Paris, dans la classe de Dan Lebozek, qui est une formidable pianiste.
C'est vrai.
Avec qui j'ai la chance de jouer maintenant en quatre mains et en duo assez souvent.
En même temps, une très belle personnalité.
Tout à fait, absolument, vraiment. Ça fait vraiment partie des gens qui m'ont marqué aussi. Non, je l'avais pas cité parce qu'elle est pas prof de piano, mais c'est peut-être l'une des rencontres les plus marquantes que j'ai faites à Paris. Et donc Fabien, on a collaboré ensemble plusieurs fois pour certaines de ses pièces qu'il avait écrites. J'ai participé récemment à un disque de ses études. On est de mémoire 5 ou 6 pianistes à avoir enregistré ces 12 études qui paraîtront l'an prochain. Et voilà, c'est un compositeur que j'apprécie énormément, une personne que j'apprécie énormément. Et donc j'ai pensé à lui parce qu'il a un style très fin, très poétique, si on tombe un peu dans le cliché, très français. Et je me suis dit, on s'est dit avec Lionel, je lui ai fait entendre évidemment ce que Fabien faisait. On s'était dit que ça pouvait être une bonne conclusion. Bah, déjà, je trouve ça intéressant dans un album de proposer une création pour ouvrir un peu vers l'avenir et puis pour faire travailler tous ces compositeurs. Et puis voilà, créer de la musique, parce qu'on est quand même dans une période où on joue beaucoup, on joue essentiellement de la musique du passé. Et ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire de la musique.
Bien entendu.
C'est quand même intéressant de pouvoir jouer de la musique vraiment qui est révélatrice de notre époque réellement. Et le deal, si vous voulez, le contrat, c'était que dans cette pièce, ça pouvait être une sorte de résumé. Enfin, ça paraît grossier comme terme, mais c'est une sorte de point d'orgue à se donner à ce disque. C'est-à-dire qu'il y a donc cette progression stylistique et chronologique et géographique qui se conclut donc avec la sonate de Schneider. Et ensuite on a où est-ce que je me trompe, est-ce que Templeton est après dans le disque, j'ai un doute d'un coup. En tout cas, on a voulu revenir à l'aspect français mais faire quelque chose qui intègre des éléments rythmiques et harmoniques du jazz en fait. Donc on a en même temps voulu ouvrir vers l'avenir en proposant une création et en même temps résumer un peu tout le parcours qu'on avait fait.
Eh bien, avant de se quitter, on va écouter ensemble En vol de Fabien Touchard. C'était En vol de Fabien Touchard qui termine en beauté le programme de votre disque Flore Merlin, gravé avec le clarinettiste Lionel André, sorti sous le label Mountain Records. Merci beaucoup Flore Merlin, bonne journée et bon concert.
Merci beaucoup à vous Christophe.
À bientôt j'espère.
À bientôt.
Quoi de neuf ? Mozart toujours. Franck Masquelier et Marc Grovels nous proposent, dans leur album sorti sous le label Indécence Calliope Records, une sélection des airs les plus célèbres des opéras de Mozart en duo de flûte. Écoutons Il mio tesoro, qui a donné le titre à l'album. C'est un air fameux du second acte de Don Giovanni. Yeah. Mozart sur IDFM Radio, une élégante transcription d'Il mio tesoro, l'air de Don Ottavio du deuxième acte de Don Giovanni par Franck Masquelier et Marc Grovels flûte. Cette formation de deux flûtes, en vogue dès le XVIIIe siècle, a largement contribué, grâce à une somme considérable d'arrangements et d'adaptations, à rendre populaires les airs d'opéra, et notamment ceux de Mozart. Voici maintenant l'air du premier acte de Papageno de la flûte enchantée. Après l'air de Papageno, voici l'air de la Reine de la Nuit, bien sûr encore dans la flûte enchantée de Mozart, par Franck Masquelier et Marc Grovels flûte. Thank you. C'était la transcription pour deux flûtes du célébrissime air de la Reine de la Nuit de l'acte 2 de la Flûte Enchantée par Franck Masquelier et Marc Grovels qui nous offre un disque procurant beaucoup de plaisir à l'auditeur. Je pense que vous vous en êtes rendu compte. Les mêmes interprètes nous ravissent avec le très fameux air de Chérubin de l'acte 2 des Noces de Figaro. Mozart, c'était l'air de Chérubin des Noces de Figaro par deux formidables flûtistes, un français, Franck Masquelier, et un belge, Marc Grovels, qui nous offre un bouquet de transcriptions des airs les plus connus des opéras de Mozart, Il mio tesoro, un vrai trésor musical, c'est vrai, sorti sous le label Indécence Calliope Records. Une nouvelle version des 24 études opus 10 et 25 de Chopin, le pianiste Gwendal Gigelet relève le défi avec bonheur dans un album sorti en début d'année chez BY Classic Label. Le projet du pianiste d'origine bretonne est né pendant le confinement d'une triple nécessité. Nécessité musicale pour des œuvres représentant un panthéon du piano virtuose romantique, un aspect pédagogique, un répertoire joué par nombre de ses élèves, et une nécessité plus personnelle, après une opération de la main gauche, suivie d'un long temps de rééducation, faite justement avec ou grâce à ses études de Chopin. Écoutons successivement, par Gwendal Gigelet, les études opus 10 numéro 1 en ut majeur, puis l'étude numéro 12 en ut mineur, dite révolutionnaire. Chopin l'a en effet composé en 1830, juste après la reconquête de Varsovie par les troupes russes pendant l'insurrection, d'où son caractère tempétueux. Thank you. Frédéric Chopin sur IDFM Radio par Gwendal Gigelet, les études numéro 1 et 12 de l'opus 10, dédiées à son ami Franz Liszt. Les études de l'opus 25, composées de 1832 à 1836, sont dédiées à Marie Dagout, qui était la maîtresse de Franz Liszt. Écoutons, toujours par Gwendal Gigelet, les études de l'opus 25, numéro 11 en la mineure et 12 en ut mineure, qui sont toutes deux chargées d'une très grande puissance poétique.
Thank you.
le pianiste Gwendal Gigelet vient de jouer sur IDFM Radio les deux dernières études, numéro 23 et 24 de l'Opus 25, extraites d'un très bel album d'un pianiste trop discret, qui est aussi un chambriste recherché, un excellent pédagogue et un spécialiste de l'improvisation, une qualité devenue rare chez les pianistes classiques. Le chef roumain Cristian Macellaru, actuel directeur musical de l'Orchestre National de France, également chef principal de l'Orchestre Symphonique de la WDR de Cologne depuis 2019, a gravé avec cet orchestre la partition intégrale du ballet Le Prince des Bois, chef-d'œuvre du compositeur hongrois Béla Bartók, un disque publié par le label Lean Records. Voici un premier extrait. Le prince tombe amoureux d'une belle princesse. Béla Bartók sur IDFM Radio, c'était un extrait du Prince des Bois par Cristian Macellaru au pupitre de l'orchestre de la WDR de Cologne. Une très belle musique influencée par Debussy et Richard Strauss. Écoutons la troisième danse, la danse des vagues. Eh bien, nous venons de refermer notre émission avec la danse des vagues, extraite du ballet de Béla Bartók, Le Prince des Bois. Une magnifique partition, remarquablement mise en valeur par l'orchestre de la WDR, c'est-à-dire de la radio de Cologne. Quant à moi, Christophe Gravreau, je serai ravi de vous retrouver très vite pour une nouvelle balade musicale. Merci à Francky à la technique. Et bien sûr, restez à l'écoute des programmes d'IDFM Radio. Avec maintenant les informations.